Évangile et Liberté.
L'émission mensuelle du protestantisme libéral. Évangile et Liberté, c'est le journal des protestants libéraux, une revue de théologie pour penser et croire en toute liberté. Alors, je le rappelle, mais vous le savez bien sûr, amis auditeurs et auditrices de Fréquence Protestante, deux numéros d'Évangile et Liberté du mois de février sont envoyés gratuitement à ceux qui en font la demande. Il suffit de composer le 09 53 43 45 71 et Karim, notre secrétaire national, s'empressera de vous faire parvenir ces exemplaires. Alors oui, aujourd'hui, cette émission est assurée en compagnie de Bernard Calvino. Bonjour Bernard.
Bonjour Guylaine.
Merci à vous d'être venu jusqu'à Fréquence Protestante, dans le métro argentine. C'est pas le bout du monde, mais quand même. Alors Bernard, vous êtes membre du comité de rédaction d'Évangile et Liberté et vous vous occupez, on y reviendra probablement en fin d'émission, de la partie internet, en coût du développement digital de la revue.
Oui, tout à fait, c'est une initiative qui a été décidée par le conseil d'administration l'année dernière et qui m'en a confié la charge de développer donc en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un journal web qui vient compléter mais surtout ne se substitue pas à la revue papier, qui est la revue mensuelle que tous nos abonnés reçoivent. Mais là, il s'agit de permettre de donner une plus grande liberté d'expression, de donner une plus grande, surtout, surface d'expression à tous ceux qui le souhaitent, mais on en parlera peut-être.
On en parlera. Et surtout, je voulais aussi rajouter que ce n'est pas non plus un doublon du site qui existe
surtout
déjà.
Pas.
Voilà. Donc, en effet, ça mérite qu'on y revienne. Et probablement, en fin d'émission, une fois que nous aurons avec vous, Bernard, lu ce numéro d'Évangile et Liberté du mois de février, dont le dossier porte sur les notions d'Église et État. Alors, avant d'aborder ce gros morceau-là, parce qu'on va devoir y revenir, nous allons évoquer, pourquoi pas, l'éditorial. Commençons par le début, Bernard. Un éditorial signé par Jean-Marie de Bourconnais, qui est donc l'un des... l'un des trois rédacteurs-chefs du journal. Alors, être libéral, c'est d'abord une attitude, nous dit-il.
Oui, c'est pas facile d'aborder en si peu de signes, dans un esprit éditorial, le pourquoi du libéralisme. Qu'est-ce que c'est qu'être libéral? C'est une question difficile. Qui, malgré tout, dans cet éditorial, Jean-Marie nous propose quelques réponses. Fondamentalement, il nous renvoie la balle, en quelque sorte. Il nous propose bien de tenter sa propre réponse, mais il ne nous la donne pas. Et il nous renvoie la balle, en nous disant « tentez les vôtres ». Sans nécessairement vous référer à tel ou tel auteur. Alors, effectivement, bon, moi, lorsqu'on m'interroge justement sur ma présence au sein du mouvement libéral, j'insiste toujours sur le fait que, au-delà de ma foi protestante, le libéralisme est pour moi devenu indispensable dans la mesure où c'est effectivement un pilier de ce que j'appellerais la responsabilité individuelle. Et si j'avais à résumer le libéralisme protestant, c'est ainsi que je le définirais. Le fait de pouvoir de soi-même penser, critiquer, croire en toute liberté, surtout pour moi qui suis scientifique et qui ai fait une carrière de chercheur.
C'est vrai, je l'ai omis cela.
Mais c'est
important.
C'est pas grave. C'est important parce que c'est effectivement une grille d'analyse qui est fondamentale pour ma foi.
Mmh. Et alors quand vous dites justement, Bernard, c'est indispensable, cette notion de libéralisme, de questionnement, ça voudrait dire que sans cela, vous ne seriez peut-être plus dans cette dimension. Dimension, voilà, de croire, de la foi, de pratiquant.
En tout cas, une chose est certaine, c'est que je ne peux pas croire quelque chose qui m'est imposé. Je ne peux pas croire au dogme, je ne peux pas croire à ce qu'il faut que je croie. Non, ma foi, elle est une adhésion libre et totalement libre à des recherches que je fais pour donner un sens à ma vie, en quelque sorte. Et comme le dit Jean-Marie dans son éditorial, être libéral, c'est affirmer que nos réponses sont partielles. C'est-à-dire que c'est les réponses que moi je fais, ce sont les miennes et je cherche surtout pas à les imposer aux autres. Mmh. Chacun est unique dans sa démarche de foi. Et pour moi, être protestant, c'est déjà un peu ça. Mais être protestant libéral, c'est aussi accepter de rentrer dans la démarche historico-critique des textes de la Bible, c'est accepter de prolonger, pour moi, pour mon activité de chercheur, mon activité scientifique, de prolonger cette grille d'analyse dans la recherche de ma foi. Et donc, c'est vraiment c'est vraiment indispensable pour moi. Et comme le dit Jean-Marie, là encore dans son éditorial, ne jamais cesser de nous poser des questions.
C'est ça. Voilà. C'est vraiment ce que j'aime dans cet édito, c'est privilégier les questions. Voilà notre vocation commune. Mmh. Questionner toujours.
Et puis la fin est magnifique.
Magnifique.
Soyez libres.
Voilà un beau programme, n'est-ce pas, pour les lecteurs et lectrices d'Évangile et Liberté du mois de février. Alors, nous n'allons bien sûr pas pouvoir parler de tous les articles de ce numéro, mais nous avons aussi choisi d'évoquer celui d'Abigaël Bassat, qui est aussi l'une des rédactrices en chef, la rédactrice en chef dans le trio, qui a écrit un article sur « Dieu est amoureux », le Dieu amoureux. Alors, vous l'avez lu aussi cet article, Bernard ?
Bien sûr que je l'ai lu. Et...
tout de suite, ça attire. Hein.
Oui.
Ça attire, ça c'est indéniable.
Oui, même si je trouve que le chapeau est un peu maladroit, parce que faire le rapprochement entre Dieu, le Dieu amoureux, et la Saint-Valentin du 14 février, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Ce que cet article m'a posé comme question vient du fait que, là encore, c'est aussi un point de vue vraiment très personnel, mais j'ai beaucoup de mal de parler de Dieu. Et
Dieu en tant que personne ou...
Oui.
Au-delà de ça.
Mais ça va très loin, parce que Dieu, personne ne l'a rencontré. Dieu, personne ne sait qui il est. Parler de Dieu, c'est pour moi vraiment quelque chose de très difficile. En tout cas, même si c'est au travers d'une symbolique et au travers d'une interprétation des textes que l'on parle de Dieu le Père, pour moi, Dieu n'est pas mon père. J'en suis vraiment désolé, mais j'ai un père biologique et ça me suffit. Dieu n'est pas mon père. Dieu est quelqu'un, en tout cas dans ma réflexion et dans ma progression dans ma foi, est quelqu'un que je n'ai pas rencontré. Donc c'est difficile de parler de quelqu'un qu'on n'a pas rencontré, qu'on ne connaît pas. Alors quand je dis ça, on me dit « mais alors tu es agnostique ?» Eh ben je dis « oui, d'une certaine manière je suis agnostique, mais ma foi ne repose pas fondamentalement sur ce lien à Dieu. » Alors parler d'un Dieu amoureux, c'est encore plus compliqué dans mon esprit, parce que que Dieu suscite le désir chez l'homme, moi je veux bien, mais c'est quelque chose qui m'est assez compliqué à envisager. Parler de désir de Dieu, à part ce que j'en ai entendu dire de certains mystiques qui sont allés très loin dans cette position, c'est pas quelque chose qui m'est familier, le désir de Dieu. Parler de Dieu dans la dimension érotique, puisque Abigaïl fait le rapprochement. Dieu aime l'homme d'un amour passionnel empli de désir, écrit-elle. C'est quelque chose qui m'est vraiment complètement éloigné, complètement étranger.
Ouais. Alors, je vous rejoins assez, Bernard, dans cette réflexion. Pour moi, si on parle de l'amour, amour amoureux, voilà, quid de la sexualité ? Évidemment, c'est difficile de l'envisager dans cet article. D'ailleurs, vous parlez d'un aspect érotique, mais la sexualité, on n'en parle pas, alors que pour moi, c'est indissociable de l'amour, dans le sens d'amoureux. Mais quand même là où ce qui me plaît dans ce que dit Abigail, c'est qu'elle dit à un moment donné, parler de Dieu comme d'un amoureux, c'est tenter de rendre compte de sa passion, c'est-à-dire de la passion de l'homme, il me semble, pour le monde, ah oui, de la passion de Dieu pour le monde et notre passion pour Dieu. Ouais, quoique, oh là, à l'heure lecture, c'est peut-être pas aussi évident, mais bon, voilà.
Ben, c'est compliqué dans la mesure... Pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. C'est compliqué dans la mesure où, effectivement, donner cette clé de lecture de la relation à Dieu par la dimension amoureuse, pour moi, c'est rempli d'ambiguïté parce que je n'adhère pas à cette clé-là. Ce n'est pas la mienne. J'essaye de comprendre ce qu'Abigail a voulu dire, dans la mesure où, pour elle, visiblement, c'est quelque chose de fondamental.
Ouais, absolument, c'est vraiment une conviction.
Voilà.
D'ailleurs, c'est dans la partie conviction du journal, donc on ne peut pas lui enlever cela.
Non. Et alors justement, parce que ça m'interroge, j'essaye de comprendre ce qu'elle a voulu me dire, ce qu'elle a voulu me faire passer, et j'ai effectivement un espèce de voile qui se tend devant mes yeux quand je lis à voix haute et quand j'entends ce qu'elle nous dit. Ce voile vient du fait que, pour moi, si je veux faire un lien entre Dieu, le Dieu amoureux, et ce que j'essaye de chercher dans cette relation à Dieu, c'est effectivement l'amour que le Christ nous a enseigné. Bon, là c'est quelque chose qui répond et résonne complètement en moi. Mais c'est pas ce qu'elle nous dit. Elle nous parle pas du Christ. Non. Elle nous parle de Dieu. Donc ce voile vient du fait que ma relation à Dieu, elle passe par le Christ. Elle passe par le témoignage de l'Évangile et elle passe par tout ce que le Christ nous apprend dans cette dimension de l'amour des autres. Mais ça n'a rien à voir avec le Dieu amoureux dont nous parle Abigail. Et même si il y a un certain nombre de points de vue qu'elle défend que je partage, quand elle dit par exemple que la vie humaine a une valeur immense, ben on ne peut qu'être d'accord. Oui. La vie humaine est ce qui manifeste le mieux l'état amoureux de l'homme, car la passion pour l'homme naît de la passion pour Dieu. Là c'est une j'appellerais ça une pirouette quoi. Hein, c'est une inversion de la proposition qui est un peu facile dans la mesure où que Dieu ait une passion pour l'homme, je veux bien l'admettre, ça ne me pose pas de problème. Mais de le renverser en disant l'homme a une passion pour Dieu, là, c'est plus compliqué dans mon esprit. Mmh. Quand elle dit un peu plus loin, aimer Dieu au point d'être assez fou pour pouvoir mettre au monde un enfant, là, c'est quelque chose qui vraiment m'interroge. Parce que le désir d'enfant, il est totalement, dans mon esprit, indépendant de Dieu. Et bon, même si elle dit, oui, dans le monde actuel, mettre au monde un enfant, c'est un acte de confiance extraordinaire, ça, je veux bien l'admettre. Parce que, effectivement, le monde que nous avons aujourd'hui, il n'est pas très rose et c'est pas un avenir très chanteur pour les enfants qu'on met au monde aujourd'hui. Mais de là à dire que mettre au monde un enfant, c'est un amour assez fou vis-à-vis de Dieu, c'est quelque chose qui là encore m'est complètement étranger. Mm-hmm. C'est un peu compliqué, mais bon, il faut que je relise cet article avec un esprit un peu moins critique pour essayer de mieux adhérer à ce que Abigail veut nous dire.
Bon, mais en même temps, voilà, Évangile et Liberté propose des pages où il y a une liberté de penser
à chacun de
répondre et d'entendre comme vous le faites, Bernard, et de rejoindre pas ou peu la pensée de l'auteur.
Tout à fait.
Alors, pour le vu d'ailleurs, qui est la page qui suit, nous irons dans un pays frontalier à la France, l'Italie. L'Italie et son église vaudoise. Et c'est Francesco Pinotti, qui était étudiant en master en droit de l'homme à Sciences Po, mais aussi stagiaire à l'ONG Mediterranean Hope, qui nous raconte ici l'expérience des couloirs humanitaires. Alors peut-être est-ce qu'on pourrait rappeler ce qu'est un couloir humanitaire, Bernard, avant de nous engager dans la lecture de l'article de Francesco Pinotti.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'auteur dans l'article rappelle que c'est un projet qui a été initié en Italie à l'origine, et qui s'est fixé pour but de créer ce qu'ils ont appelé, et je trouve le terme très beau, couloir humanitaire, parce que le but est de permettre à des réfugiés qui sont dans des camps de réfugiés pour Syriens au Liban, dans des conditions d'ailleurs épouvantables, de leur permettre de sortir de ces conditions de vie difficiles et d'accéder à un statut, un véritable statut dans des pays développés. Alors, ces couloirs humanitaires, c'est une démarche que je trouve intéressante parce qu'elle est très progressive. Elle est dans le respect total du droit européen et du droit des pays qui ont accepté cette démarche. Et en Italie, ben c'est effectivement l'initiative qui est œcuménique, hein, qui rassemble la Fédération des Églises évangéliques, l'Église vaudoise et la communauté catholique de Saint-Égidio. Et ils ont fait la preuve que la démarche était réaliste et réalisable en accueillant... Alors bien sûr, ce sont de petits effectifs, de petits nombres. Là, je ne me souviens plus le chiffre exact, mais c'est autour de 80 réfugiés qu'ils ont accueillis dans un premier temps. Mais ce qui est fantastique, c'est que du coup, ça a donné l'idée dans d'autres pays européens, de reprendre cette démarche. Et que c'est aussi le cas en France, où maintenant, ces couloirs humanitaires sont aussi organisés. L'Église protestante unie est partie prenante de cette démarche, avec d'autres partenaires œcuméniques, là encore. Je crois qu'il y a le mouvement Caritas, je crois qu'il y a la communauté de Sant'Egidio. Donc,
L'AFPF, l'entraide protestante.
L'entraide protestante est bien évidemment présente. Et tout ça pour un nombre d'accueillis qui, bien sûr, paraît dérisoire face à l'immense problème que posent tous ces réfugiés. Mais au moins, je crois que le chiffre qui a été sur lequel s'est engagée en France cette communauté œcuménique porte sur 2000 personnes à accueillir en 5 ans. 2000, c'est dérisoire, mais pour ces 2000 personnes, c'est quelque chose de formidable. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé dans cet article, c'est à la fois le fait de rappeler cette démarche qui maintenant est une démarche au niveau de l'Europe, c'est de rappeler l'historique et comment l'Église vaudoise avec la communauté de Saint-Égidio a été à l'origine de cette démarche, et en espérant que ces couloirs humanitaires, ils vont s'élargir de plus en plus et que ça va pas être 2000 mais 20 000 personnes qui pourront être accueillies dans les années qui viennent, du moins on peut l'espérer, quoi.
Donc c'est l'article de Francesco Pinotti sur les couloirs humanitaire. Pour rester en Italie, Bernard, je vous propose notre pause musicale avec ce chanteur italien qui est mort en 2016, Gian Maria Testa. Un album est sorti là, à titre posthume, Prezioso, et on écoute l'un de ses titres sur le titre en italien. Est-ce que je me suis noté? Ben non, je crois que c'est Un pauvre monde en français, ça donnerait. On écoute.
Povero tempo nostro, povere fatiche, povera la terra intera che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro, e poveri questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà per chi bestemmia le parole. Thank you. lascia che torni il vento e con il vento la tempesta e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione che tutto appassirà per chi bestemmia le parole, che tutto appassirà a chi bestemmia le parole.
Alors sur Fréquence Protestante, l'émission d'Évangile et Liberté, nous évoquons le numéro de février 2019 en compagnie de Bernard Calvino, qui est notre lecteur d'aujourd'hui. Nous avons bien sûr évoqué les premiers articles de la revue et puis nous continuons, voilà, à feuilleter le journal et on s'arrête sur le petit billet de la Tribune Libre de Gilles Castelnau sur la prière d'intercession. C'est aussi un sujet, ça, pour les libéraux, la prière d'intercession.
Oui, tout à fait. C'est vrai que cette prière d'intercession, bon, Gilles Castelnau dit à juste titre que dans les prières d'intercession, on dit à Dieu tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il pourrait faire. Et c'est quelque chose qui rejoint des réflexions que j'entends souvent, que Dieu est silencieux devant la situation actuelle du monde. Mais non, parce que Dieu laisse l'homme libre, il nous laisse libre d'agir comme on l'entend. Et c'est de notre liberté d'accepter ou de refuser l'état actuel du monde et de nous engager ou non pour essayer de le transformer. Gilles Castelnau en profite pour embrayer sur des notions un peu plus, à mes yeux, critiques. Il introduit cette notion en disant « Dieu est pourtant en nous et il n'agit pas sans nous », tout à fait d'accord. Mais là où il va un peu loin, je trouve qu'il pousse le bouchon beaucoup trop loin, c'est quand il va jusqu'à dire que s'il y a des progrès en médecine, c'est grâce à Dieu. S'il y a des progrès en technologie, c'est grâce à Dieu. S'il y a des progrès en politique, le RSA, l'arrêt des expulsions en liberté, etc., c'est grâce à Dieu.
Dieu est partout.
Dieu est partout.
Il s'occupe de tout. Là, finalement, du coup, ça renverse presque la phrase du début.
Ah, mais complètement.
Ouais.
Et alors, quand il justifie ses positions en disant « c'est Dieu qui joint dans la mesure du possible son intelligence à l'esprit des hommes de bonne volonté, qui joint son esprit à là, je ne souscris plus du tout à ses propositions. »
Voilà, on prend quelques phrases qui nous conviennent. Et on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement de Gilles.
Voilà. Bon, alors, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la fin de son article, la conclusion, lorsqu'il ressente sur la prière, et quand il dit que la prière se fait plutôt méditation calme, où l'on prend conscience en sa présence de la force de la vie cosmique qu'il nous renouvelle, là, je rentre à fond dans cette démarche.
Adhésion totale,
et c'est vrai que c'est une très belle conclusion.
Je partage votre avis, Bernard. Alors, nous le savons, Évangile et Liberté, c'est systématiquement un dossier. Alors, un dossier qui est parfois signé par plusieurs plumes, mais en l'occurrence, celui-ci, excepté l'introduction qui est faite par
Pierre-Olivier
Leschaud, c'est un article sur Église et État, un aspect historique, du professeur Linhart, Marc Linhart. Alors, c'est pas un peu court, un dossier avec un seul article. Finalement, il n'y a pas de point de vue, quoi.
Non, là, c'est un dossier qui, plus est, ne prête pas à la contestation. C'est un état des lieux, en quelque sorte, un déroulé historique sur les rapports entre Église et État, depuis les communautés chrétiennes des premiers siècles jusqu'à aujourd'hui. En balayant tout ce qu'a été l'évolution des rapports entre l'Église et l'État, que ce soit du temps de Constantin, l'époque médiévale, le Moyen-Âge, puis la réforme protestante le siècle des Lumières, bien sûr l'impact de la Révolution française sur l'évolution des rapports entre Église et État. Alors j'ai évidemment sauter, si je puis dire, les épisodes dramatiques avec la révocation de l'édit de Nantes et le drame que ça a généré pour nous protestants. Mais bon, je veux dire, c'est un survol assez rapide de cet historique des rapports Église et État, mais qui pour moi ne rentre pas dans une dimension de réflexion. C'est en quelque sorte un état des lieux qui a pour fil conducteur l'histoire. Alors, le dernier paragraphe, évidemment, perspective, nous amène à un peu plus de réflexion. Et bon, c'est là où je pense qu'effectivement, les lecteurs, tout comme moi, trouveront matière à réfléchir. Mais je trouve que c'est bien court par rapport à un sujet aussi vaste. Et c'est un peu dommage d'être resté dans cette dimension un peu linéaire de l'histoire des rapports entre Église et État.
Alors, bien sûr, Bernard, nous n'allons pas détailler tout ce numéro d'Évangile et Liberté. Je le répète, il est disponible gratuitement auprès de Karim, notre secrétaire national, qu'il suffit d'appeler au 09 53 43 45 71. Là, vous aurez l'intégralité du numéro de février 2019. Et je crois que dans sa grande générosité, il en envoie un deuxième numéro. Je crois que c'est d'un autre mois. Voilà. Donc voilà, vous avez de quoi vous faire une idée de ce journal et Évangile et Liberté. Alors Bernard, j'aimerais que nous revenions sur votre mission finalement, au cœur du comité de rédaction, sur cet aspect de compléter cette revue papier, compléter le site internet par une version blog. Une version comment ? Est-ce qu'on dirait plus interactive ?
Voilà, je crois que c'est le mot, c'est interactivité. Nous voulons profiter des moyens fantastiques que nous offre le numérique pour essayer de mettre en place appelons-le un journal, un journal qui soit dans deux dimensions. Un, la réactivité à l'événementiel, bon, ce que ne permet pas la revue, puisque la revue que les lecteurs reçoivent, elle a été bouclée 3 mois avant. Donc,
2 mois, je crois.
Ou 2 mois, oui, pardon. Réactivité à l'événement, ce qui permet, par exemple, comme on l'a fait, les auditeurs et les lecteurs d'Évangile et Liberté pourront s'y retrouver, au moment de mai 68, par exemple, de mai 2018, nous avons utilisé cet événement du cinquantenaire pour nous replonger dans les éditoriaux d'Évangile et Liberté, de mai 68, et de voir comment nos prédécesseurs avaient vécu cet événement et l'avaient analysé. C'est tout à fait intéressant, parce que il y a une dimension qui est extrêmement, à contre-courant par rapport à ce que mai 68 propose aujourd'hui. Et puis l'autre aspect, c'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de s'exprimer, et si des auditeurs qui nous entendent ont des choses à dire, qu'ils envoient leurs contributions. Nous sommes un petit groupe actuellement que nous espérons faire grandir. Nous ne sommes actuellement que 4 au comité de rédaction du journal web. Et ce que nous attendons, c'est justement de pouvoir faire vivre l'interactivité totale, comme le font les réseaux sociaux aujourd'hui, sur le fond comme sur la forme.
Voilà. Donc on se rapproche de vous, Bernard. On peut aussi appeler Karine, qui transmettra au 09 53 43 45 71. Au revoir.
Au revoir et merci.
Merci.